vous écoutez Rebel Podcast. Que vous recherchez un moment d'inspiration, de réflexion ou simplement de connexion humaine, vous trouverez ici une communauté prête à vous accueillir. Je suis Christiane, votre hôte, et je suis ravie de vous embarquer dans cette aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rebel Podcast. Alors aujourd'hui, on reçoit pas nouvelle invitée, parce que si vous avez écouté l'épisode précédent, je pense que vous allez très vite reconnaître sa voix. Mais si ce n'est pas le cas, déjà Suzanne, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bien.
Super, excitée, hein?
Ouais, un peu stressée, mais contente.
C'est normal, ça va le faire. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux et celles qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode précédent, pour qu'ils puissent savoir un peu à qui est-ce qu'ils ont affaire aujourd'hui?
Qui suis-je? Donc je m'appelle Suzanne, j'ai 25 ans, j'habite à Budapest, je suis une jeune cadre dynamique.
Impact maker.
Bien sûr. voilà, je pense que c'est suffisant. Hein.
Ouais.
Pas plus de choses que ça.
Tu vas parler pendant une heure, donc... ok, merci Suzanne. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier l'épisode du jour, parce que habituellement, c'est moi qui vais vers les gens en leur proposant une thématique, parce qu'il y a un sujet chez eux qui m'intéresse et que j'aimerais faire partager à la communauté Rebel Podcast. Mais aujourd'hui, la thématique du jour, Suzanne, c'est toi qui es venue vers moi en me proposant d'aborder ce sujet.
Ouais.
Et déjà, dans un premier temps, je voudrais te remercier et également prendre l'opportunité pour remercier aussi tous les invités de Rebel Podcast qui sont venus ici, parce que voilà, c'est pas un exercice évident. Souvent, faut parler de soi, faut vraiment partager des expériences qui sont souvent très personnelles. Et que tu aies eu le courage déjà de venir vers moi et de me dire écoute, j'aimerais qu'on en discute, tout en sachant que ça allait être ensuite publié et que les gens allaient pouvoir t'écouter. J'ai trouvé ça très courageux et vraiment je souhaite te remercier, parce que je pense que voilà, c'est des sujets qui sont importants d'aborder, et je suis contente qu'aujourd'hui tu puisses nous faire part de ton expérience et de ton témoignage.
Merci de m'accueillir dans cette safe place.
Et je pense que vous allez certainement l'entendre encore sur des épisodes à venir, puisque voilà, on vit dans la même ville, on est amis, donc j'espère que vous allez apprécier le personnage.
C'est que le début.
C'est que le début, exactement. Mais aujourd'hui, on va aborder le sujet des troubles du comportement alimentaire ou troubles des conduites alimentaires. Je pense que c'est un sujet qui touche énormément de personnes, et ça me fait plaisir qu'on puisse parler de cette thématique aujourd'hui, et puis peut-être aider, grâce à ton témoignage, des personnes qui vivent ou qui ont vécu aussi des expériences similaires. Avant de commencer et pour introduire le sujet, j'aimerais partager une statistique pour qu'on puisse se rendre compte à quel point c'est vraiment très très répandu, peut-être même plus qu'on ne le pense. À savoir que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les TCA affectent plus de 70 millions de personnes dans le monde, donc c'est énorme. Mais parmi celles-ci, les jeunes représentent un groupe particulièrement vulnérable, avec une prévalence qui a augmenté de 119% chez les 15-19 ans au cours des 10 dernières années. Ces troubles, évidemment, ils connaissent pas de frontières, ça touche tout le monde, tous les sexes, tous les âges, toutes les ethnies, toutes les classes sociales. Et l'idée aujourd'hui, dans cet épisode, c'est de pouvoir, grâce à ton témoignage, Suzanne, explorer peut-être les différents types de TCA, leurs causes, leur impact sur la santé mentale et le physique, et ainsi pouvoir peut-être aider et éveiller aussi les consciences sur ce sujet-là. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, quand on parle de TCA, qu'est-ce que ça t'évoque? En vraiment trois mots, qu'est-ce que tu as en tête?
Pendant longtemps, pour moi, TCA, c'était une vision très stéréotypée de boulimie ou anorexie. Et c'était aussi la représentation qu'on en a dans la culture populaire, les films, les séries. Donc pour moi, c'était ça. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, que moi-même, c'était des TCA que j'avais. Mais je ne le savais pas, je ne m'en rendais pas compte, parce que justement, je ne rentrais pas dans ces deux catégories qu'on imagine habituellement. Donc, c'est encore un sujet que je continue de découvrir. Mais du coup, les TCA, c'est tout un spectre, en fait, comme tu l'as dit, qui touchent plein de gens et qui peuvent parfois juste arriver de façon assez ponctuelle sur une période courte. Et il y a des gens pour qui ça va durer des années, avec des niveaux aussi de gravité plus ou moins forts. Qui peuvent aller jusqu'à mettre la vie des gens en danger. Mais voilà, c'est vraiment tout un spectre.
Et toi, du coup, quand est-ce que ça a commencé, les TCA ? Quand est-ce que les premiers signes et les premiers troubles sont arrivés dans ta vie ?
Ben, je l'évalue, je pense, au collège. C'est difficile à dire parce qu'en fait, tout ça, c'est avec le recul que j'ai aujourd'hui. Mais quand je le vivais, je n'avais pas du tout conscience que c'était ça. Mais du coup, je dirais que c'est arrivé, ça a commencé en quatrième à peu près, cinquième, quatrième. Ce qui correspond à la puberté, en fait, et du coup, au moment où le corps change et où je suis passée d'un corps d'enfant à un corps de jeune femme, et où du coup j'ai commencé à beaucoup me comparer aux autres, et notamment aux autres femmes, et aussi à c'était à l'époque les débuts d'Internet, j'ai l'impression d'être une grosse boumeuse, mais je me souviens que c'est une époque où je passais beaucoup de temps sur Internet, sur plein de blogs de femmes, de un peu blogueuses qui expliquaient leur routine sport, leur routine santé, aliments, machin, tous les magazines féminins qui, en fait, ces sujets sur le corps, sur l'alimentation étaient omniprésents, et ça m'a complètement embrigadée dans des soucis liés à ma relation avec la nourriture et au corps.
Ça se manifestait comment ? Ça a commencé comment ?
Ça se manifestait par une obsession totale du contrôle de mon corps et de mon alimentation. Donc, en fait, juste, j'étais persuadée que j'étais trop grosse et j'étais persuadée que tous mes problèmes seraient réglés si je perdais du poids et que je devenais mince. Je me rendais compte que j'étais pas aussi mince que mes copines ou les filles au collège et tout. Et du coup, je me comparais à ça et je me disais « Non mais ça va pas, je suis trop grosse, il faut que je perde du poids, absolument.
Okay. »
Et du coup, sauf qu'en plus, j'habitais chez mes parents à l'époque, donc tu n'es pas libre de cuisiner ce que tu veux ou quoi que ce soit. Mais du coup, j'essayais quand même de me restreindre. Au début, je mangeais moins. J'essayais de faire du sport. Sauf que très vite, je suis rentrée dans un peu un cercle vicieux de tu te restreins, donc ça crée de la frustration. Et du coup, ça engendre des crises. On appelle ça des crises d'hyperphagie où tu te mets à manger absolument tout ce qui passe, ce que tu as sous la main. Et donc ça, c'était le symptôme principal, je dirais. Et du coup, sans la compensation que tu as dans l'anorexie ou la boulimie, où ça peut être par se faire vomir ou prendre des laxatifs, ça, j'ai jamais fait, même si j'ai essayé, parce qu'à l'époque, il y avait un peu aussi ce côté un peu glamourisé de l'anorexie, et notamment sur Internet. Je me souviens que c'était limite cool d'être anorexique.
Il y a une espèce d'era, je sais pas si tu peux l'appeler comme ça, ou genre... c'était limite un peu trendy, j'ai l'impression.
Ouais, complètement. C'était un peu à la mode et je pense qu'il y a plein de meufs qui sont tombées là-dedans aussi via ça. Et donc j'ai essayé de me faire vomir, mais j'en étais incapable. Et du coup, c'était encore plus frustrant parce que je me disais ça va pas. Et puis du coup, tu te mets aussi à culpabiliser, à avoir honte parce que c'est justement ce truc de manger des quantités complètement démesurées et avoir une perte de contrôle total, parce que pendant une crise d'hyperphagie, tu n'es plus toi-même. Tu es vraiment dans une dissociation où t'es plus toi-même, tu manges sans réfléchir, juste tu te remplis parce que ça a un côté apaisant. C'est la façon dont tu contrôles toutes tes autres émotions aussi. Et je pense qu'à l'époque, j'avais plein d'autres problèmes d'anxiété, de stress que je ne savais pas gérer, et que c'était aussi une façon d'anesthésier tout ça, juste en mangeant.
Et donc, psychologiquement, ça devait être compliqué à gérer, dans le sens où... Du coup, ça a créé un vrai cercle vicieux, c'est-à-dire que d'une part, tu devais te restreindre et contrôler du coup les quantités que tu ingérais, mais de là, développer du coup une frustration et ensuite un besoin en fait de combler limite ce manque par des crises d'hyperphagie.
Ouais.
Donc ton cerveau, il devait être constamment en dentier, en train de se dire un coup je dois me stopper, mais un coup je peux pas et du coup je me laisse aller entre guillemets. Ça devait être compliqué dans ça à gérer psychologiquement. Est-ce que tu t'en rendais compte?
Je m'en rendais pas compte. Non, hein. Franchement, je m'en rendais pas compte. Mais effectivement, ça crée cette frustration-là. Et donc, du coup, après des périodes où je mangeais beaucoup, je me disais, bon, bah, allez, pendant 3 jours, je vais manger alors, que des pommes, tu vois. Donc, il y avait cette compensation en mode, j'ai trop mangé. Enfin, c'était vraiment une balance, quoi, dans ma tête où j'équilibrais pour avoir un peu le contrôle de les calories que j'ai ingérées, les calories que je vais dépenser. Enfin, tu vois, c'était toujours, tout était de toute façon dans mon quotidien organisé autour de ça. Et effectivement, quand tu te restreins longtemps, le corps, très vite, du coup, il manque de ses besoins naturels, enfin de besoins de nutriments, exactement, etc. Ouais. Et le premier truc qui va en plus alerter dans le cerveau, c'est un besoin de glucides, parce que c'est ça qui donne vraiment l'énergie à ton corps. Et du coup, bah, tu refais des crises en mangeant tout ce qui va être du coup des aliments sucrés, gras, des glucides aussi. Donc c'est comme ça que tu réponds aux besoins de ton corps. Mais en fait, du coup, ouais, c'est un cercle vicieux total et t'en sors difficilement. Ouais.
Et c'était tous les jours, en fait, au quotidien?
C'était plutôt par période. Okay. Parce qu'aussi, du coup, donc, j'habitais chez mes parents. Donc, je contrôlais pas forcément mes repas. Mais du coup, ça arrivait souvent sur les périodes où j'étais seule chez moi. Donc, en rentrant du collège, tu vois, c'est l'heure du goûter. Et en fait, c'est un goûter qui n'a aucun sens parce que tu manges tout et n'importe quoi. Je me souviens aussi que ça m'est arrivé de cacher des aliments en prévision de ces crises-là. Et du coup, ça génère une honte en plus. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est ridicule. Et la honte était présente tout le temps. Je me souviens aussi, ça m'arrivait de passer à la boulangerie après les cours. Et il y avait 2 boulangeries sur la route pour rentrer chez moi. Et je m'arrêtais dans une première où j'achetais des trucs. Et après, j'allais dans la deuxième pour acheter d'autres trucs parce que je me disais, je vais pas acheter tout ce que je veux manger dans la même boulangerie parce que sinon le boulanger il va savoir que juste alors que je pense que le boulanger n'a absolument rien à foutre. Oui. Mais enfin tu vois, dans ta tête tu crées des stratégies, des trucs, t'es persuadé que tout le monde sait alors que les gens ne savent pas. Tu te c'est une prise de tête constante et c'était une vraie obsession. Je ne pensais qu'à ça tout le temps et tout était organisé autour de ça.
Et à ce moment-là, du coup, la période collège, donc quand ça a débuté, est-ce que tu étais seule dans ce trouble, j'entends par là? Est-ce que, déjà d'une, tu communiquais sur ça? Ou est-ce que tu avais, je sais pas, des amis à l'école qui peut-être étaient dans la même situation que toi, à qui tu pouvais peut-être te référer, ou à qui tu pouvais partager aussi ces choses-là?
Pas du tout.
Vraiment,
Je vivais ça seule, mais pas du tout. Ça me venait même pas à l'esprit de dire je crois que j'ai un problème avec l'alimentation. Parce que pour moi, c'était même normal en fait de faire ça.
Okay.
C'était naturel. Et c'est plus tard, fin du lycée ou même après, quand j'ai commencé à vivre seule, que je me suis rendu compte que les gens faisaient pas ça. Les gens ne contrôlaient pas forcément systématiquement ce qu'ils mangeaient et n'avaient pas de règles liées à la nourriture comme moi j'en avais. Et je me disais, ah oui, ok, en fait, c'est eux qui sont, disons, normaux, en tout cas, qui ont une relation saine avec leur corps et la nourriture. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que toutes ces années de collège, lycée, c'était pas du tout normal, en fait, la façon dont j'abordais ce truc-là.
Donc, ensuite, t'as eu la période du coup du collège. Tu vivais chez tes parents. Après, t'as eu ton indépendance. Donc, d'un point de vue chronologique et aussi voir l'évolution de ce trouble-là au sein de ta vie, etc. Donc, la phase d'après, c'est quand t'as eu ton indépendance, t'as eu ton appartement. Et là, t'as commencé à être, à contrôler ce que tu mangeais. C'est toi qui allais faire les courses, qui faisais tes repas. Donc là, à ce moment-là, comment ça évoluait, du moins, les troubles?
Je pense que d'une certaine manière, ça s'est calmé parce que c'est aussi une période où j'ai eu plus confiance en moi. Grâce à plein d'autres expériences dans ma vie où du coup j'ai juste grandi et j'étais plus sereine avec moi-même, donc ce côté de vouloir tout contrôler était moins présent, mais ça revenait à des phases liées en fait à des périodes où j'étais anxieuse, triste, et où en fait c'était plus seulement je veux être mince, et c'était plus du coup je sais pas comment gérer mes émotions, donc la nourriture est une façon de les gérer. C'est plutôt ça. Parce que, bon, après, l'idée, la volonté de devenir mince, elle a toujours été là, en vrai, et même encore aujourd'hui, hein, pour être tout à fait honnête, je me dis encore, c'est comme si, genre, c'était un objectif permanent de vouloir être plus mince. Alors, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, c'est par période, mais C'est comme si, voilà, je serais... Ouais, c'est okay. sûr que je serais plus heureuse si j'étais mince. Et c'était... ouais, c'est, ça reste un peu présent, quoi.
Ok. Du coup, donc, tu disais c'était un peu moins présent, et là, ça s'est un peu limite déporté au niveau des émotions, mm. et le lien avec les émotions. Quand est-ce que tu as eu conscience du trouble en lui-même, et tu as pu faire ces liens entre que ce soit le rapport au physique, la gestion des émotions? À quel moment dans ta vie t'as eu suffisamment de recul pour pouvoir poser des mots sur tout ça et ouais, faire tous les liens?
Je dirais que c'était du coup il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 3 ans à peu près, ouais, où j'ai compris que tout ça c'était des TCA, ouais, que mon rapport au corps était complètement malsain, et que du coup mon rapport à l'alimentation aussi. Et je me suis dit, mais en fait c'est fou que la nourriture, qui est un besoin en fait pour que ton corps fonctionne, pour moi ce ne soit pas du tout ça, ce soit juste une source de souffrance, et en fait même si ça allait mieux, que j'avais moins de crises, je me rendais bien compte que j'avais encore beaucoup de règles dans ma vie. Surtout quand, du coup, t'es jeune, j'étais en études supérieures. Donc, on fait des trucs, on sort, tu vas plus au resto, des trucs comme ça. Et moi, je refusais parfois des sorties parce que je savais qu'on allait aller au restaurant ou j'allais consommer beaucoup d'alcool. Et l'alcool, ça fait grossir, donc il faut limiter. Enfin, tu vois, j'avais encore beaucoup de ouais, règles.
Oui, j'allais te demander, c'était quoi les... T'as des exemples, effectivement, ouais, de ce contrôle?
Ça, typiquement, donc, ouais. Les sorties, vraiment, tu vois, une fois par semaine, à la limite. Après, c'est sur plein d'aliments. Tout ce qui est gras, sucré, c'était vraiment hors de ma vue.
Ouais.
Et encore aujourd'hui, ça, c'est un truc que j'ai encore intériorisé. Tu vois, j'achète jamais de beurre, par exemple.
Ouais.
Et quand je veux cuisiner un truc, admettons, je sais pas si je veux faire... un gâteau au chocolat, je tape recette de gâteau au chocolat sans beurre, sans sucre, sans chocolat.
C'est rien.
Et tu vois, je suis en mode, mais c'est tellement con. Et parce qu'en fait, du coup, tu vas te retrouver avec un gâteau qui est pas hyper bon, vu que tous les bons aliments, ils sont out. Et du coup, tu vas manger le truc et ça va te créer plus de frustration. Et la fois d'après où tu vas avoir d'autres opportunités de manger ce genre de choses, tu vas te jeter dessus comme si tu étais en manque, tu vois, d'un truc, plutôt que de profiter du moment, profiter d'un aliment. Du coup, voilà, c'est encore des trucs comme ça qui restent absurdes, mais de diabolisation de certains aliments. Ça, c'était vraiment ça dans ce que j'achetais. Tu vois, je passais à côté des rayons, genre de tout ce qui est biscuits apéro, tout ce qui est sucre. Je passais sans regarder, tu vois, en mode non, surtout pas, on n'y va pas. Sauf que, en fait, ça ne va pas ruiner ma vie si j'achète un paquet de chips,
ouais,
tu vois.
Ouais. Ah ouais, donc tu t'autorisais pas, en fait, t'autorisais.
Je m'autorisais pas jusqu'à ce que t'en puisses plus, et du coup, tu craques et tu te mets à acheter tout et n'importe quoi et tout manger d'un coup, c'est. Et du coup, reculpabiliser après et recontinuer ce schéma-là.
Et ces crises d'hyperphagie, t'en as encore aujourd'hui ?
Non, je pense pas. En tout cas, ça m'arrive encore d'avoir ce truc d'alimentation émotionnelle où je peux manger un truc sans avoir faim, tu vois, où je sais que je le mange pas parce que j'ai faim, mais tu vois, il y a un côté de ça apaise quand même. Ce qui en soi est pas grave, et tout le monde le fait un peu, je pense, ce truc d'alimentation émotionnelle. Bon, t'es un peu triste, allez, je vais me faire un truc un peu réconfortant. Donc c'est ok, tu vois. En fait, je suis plus indulgente avec moi-même. Si ça arrive, je me dis, bon, voilà, c'est ok, et c'est pas grave, et je vais pas. Et même si je prends du poids, bon, oui, ça va me saouler, mais je fais avec.
Donc il y a eu cette prise de conscience. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire les liens et à comprendre? Que c'était grâce. Je sais pas, typiquement aux réseaux sociaux, le fait que voilà, ce soit un sujet, j'ai l'impression ces derniers temps, qui soit quand même assez mis en avant. Est-ce que c'était juste toi aussi par tes recherches, je sais pas, sur internet, ou est-ce que c'était en parler à quelqu'un? Comment t'as pu vraiment verbaliser et poser un nom sur tous ces mécanismes qui t'était arrivé et qui t'arrive encore
Je pense qu'effectivement, le fait que ce soit un sujet dont on parle plus aujourd'hui et depuis quelques années, ça a aidé à comprendre certaines choses, à plus me renseigner et du coup, oui, de moi-même faire des recherches sur les différents types de TCA, les raisons, Ouais, au fur et à mesure, j'ai compris des choses en voyant des exemples et des témoignages d'autres personnes qui avaient vécu ça. Mmh. Mais il n'y a pas vraiment eu de déclic de « Ah, c'était donc ça » ou « C'est donc ça ». Enfin, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que juste... quand j'y repense, du coup, ça a commencé, je sais pas, je devais avoir... en quatrième, t'as quoi, 12 ans, à peu près ?
13,
ouais. Du coup, là, j'ai 25, ça fait plus de 10 ans, tu vois, que c'est dans ma vie. Et que ouais, mon rapport à l'alimentation est complètement chamboulé. Et ouais, j'imagine que les témoignages des autres, me renseigner, ça a dû aider. Mais c'est difficile à dire.
Ouais. Est-ce que t'as jamais... est-ce que t'en as parlé à un professionnel ou...
Non.
Ouais. Non. Enfin, pas que ce soit la chose à faire, mais...
Non, mais j'y ai beaucoup pensé, parce que quand je me suis rendu compte que, ok, toutes ces crises, c'est pas normal. Je sens bien, en plus, que même mon corps, le corps subit aussi les effets de ça, parce que, par exemple, le sentiment de satiété et de faim n'existe plus, parce que tu n'écoutes plus ton corps. Donc en fait, c'est comme si... C'est même pas tout le temps faim ou tu es tout le temps repu. Il n'y a plus rien, tu vois, c'est zéro. Et donc je sentais bien que tout ça, c'était pas normal et que effectivement peut-être qu'en parler à un psy, ça pourrait être bien. Mais j'ai jamais sauté le pas, parce que j'ai réussi d'une certaine manière à gérer ça plus ou moins seule. Aujourd'hui, je n'en ressens pas spécialement le besoin. Mais voilà, après...
Ouais.
On verra.
Quel est ton rapport, comment est-ce que tu définirais ce trouble à l'heure actuelle dans ta vie quotidienne par rapport il y a, 7-10 ans auparavant, quoi.
Aujourd'hui, je pense que ça va, je suis sur la bonne voie retrouver la paix avec mon corps et la nourriture, même si y a des hauts et des bas, et que je sens, comme les exemples que j'ai cités précédemment, que voilà, il y a encore des restes, mais je suis beaucoup plus indulgente et je prends encore conscience aujourd'hui de choses que je faisais. J'ai des souvenirs qui me reviennent, typiquement, je crois que ça devait être l'été entre la troisième et la seconde, où il y avait ce côté en plus, ok, lycée, l'été entre les deux, je vais changer, devenir une nouvelle personne, je vais arriver au lycée, je serai mince et belle, tu vois, c'était mon seul objectif. Et j'avais un cahier, et j'avais fait le calendrier des 2 mois, et je me pesais tous les jours, et j'écrivais tous les jours le poids que je faisais, ce qui ne changeait pas plus que ça, en plus. Donc vraiment, tu vois le truc, ça change pas, t'es là genre merde. Mais ouais, c'est terrible. Et je lisais plein d'articles sur comment perdre du poids, même quand on est assis sur sa chaise toute la journée, tu vois, des trucs, tout était autour de ça, comment perdre du poids tout le temps. C'était une obsession. Aujourd'hui, j'ai plus ça, mais j'ai encore, tu vois, je sais encore, mon cerveau a été entraîné pour retenir tout ce que j'ai mangé dans ces derniers jours, par exemple, même sur, je pense... J'ai le souvenir des 2 semaines qui sont passées, là, je peux te dire tout ce que j'ai mangé. Franchement, ouais. Wow.
Et ça, en général, c'est un truc que tu dis, genre en mode, putain, je serais incapable de dire ce que j'ai mangé la veille, tu vois.
Ouais, je peux.
Donc, que tu puisses faire ça sur les 2 dernières semaines, c'est vraiment impressionnant.
Ouais. Et sans le faire volontairement, tu vois, mais je sais que mon cerveau a enregistré. Et voilà, mais bon, je suis beaucoup mieux avec ça aujourd'hui. J'ai aussi compris qu'en fait... je ne serai pas forcément plus mince dans ma vie. Peut-être que, en fait, faut accepter que, voilà, mon corps, il est comme il est. Certes, je le trouve pas forcément à mon goût et c'est ok, en fait. Je suis pas obligée d'être absolument fan de mon corps tout le temps. Et que aussi, quand bien même, si je perds 10 kilos, je pense qu'en fait, je voudrais perdre plus. Je me trouverai jamais assez mince. Et je suis même pas sûre de si je perds du poids, est-ce que je le verrais ? Parce que ça m'est déjà arrivé, justement, à la sortie de l'adolescence et après le lycée, on m'a souvent fait dans mon entourage des commentaires sur « Ah, t'as perdu du poids ». Donc déjà, meilleur compliment qu'on puisse me faire à cette époque-là. Et d'ailleurs, ne faites pas ça, ne dites pas aux gens « Ah, t'as perdu du poids », parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi les raisons parfois sont sombres. Et du coup, j'étais en mode « Ah bon ?» Moi, je n'avais aucune conscience de ça. Donc, la vision de mon corps, en fait, je pense qu'elle n'est pas complètement réelle.
Un peu biaisée,
ouais. Ouais. Donc, j'ai aussi fait la paix avec ça, que non, je ne serais pas plus mince, mais ce n'est pas grave. Parce que, en fait, ce qui est important déjà, c'est le privilège d'avoir un corps en bonne santé, valide. qui me permet de faire plein de trucs, de danser toute la nuit si je veux, de courir des kilomètres si je veux, de faire l'amour, de je sais pas, enfin c'est déjà le véhicule de tout ce que tu vis, et c'est suffisant, c'est déjà en fait un privilège de ouf. Donc à quoi bon perdre du temps et de l'énergie et même de l'argent pour pouvoir vouloir être plus mince tout le temps? Ouais, c'est aussi beaucoup en me renseignant sur justement tout le système autour du corps, et notamment du corps des femmes, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et de lire beaucoup de bouquins féministes, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidée dans tout ça.
C'est intéressant de voir que déjà, d'une part, c'est finalement... c'est très paradoxal parce que ce qui, de base, est lié, toi, dans ta tête, au physique, et qui va affecter, du coup, ton comportement, est en fait très psychologique, et comme tu l'as très bien dit, je suis même pas sûre, en perdant du poids, pouvoir être capable de me rendre compte que j'ai perdu du poids. Ce qui démontre bien qu'en fait tout se passe finalement dans ta tête et que c'est même pas tant le rapport au physique que comme ton cerveau veut te le faire croire, quoi.
Ouais. J'ai le souvenir d'une autre anecdote, enfin je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais sur le côté d'être complètement, d'organiser sa vie autour de ça, je me souviens qu'en seconde, en cours de PS, on avait acro-gym. Et pour moi, ça, c'était... Déjà, les cours de PS, c'était une angoisse de base, parce qu'en fait, t'es en jogging, tu vois les autres et tout. Donc moi, j'étais... En plus, j'étais toujours persuadée que tout le monde pensait que j'étais grosse, alors que pas forcément. Enfin, si, on m'avait déjà fait des commentaires sur ça, mais bon, peu importe. Et le cours d'acro-gym, c'était un stress immense pour moi, parce que je me disais, bon, déjà, il faut que je mette une tenue plutôt près du corps, parce que tu sais, il faut pas avoir des trucs trop amples, parce que ça peut être dangereux. Et en plus de ça, des gens potentiellement vont devoir me porter, parce que tu fais des trucs de pyramide. T'es obligé de porter des gens, mais aussi d'être porté, tu vois, dans les barèmes, il faut faire des deux figures. Et pour moi, c'était impossible. Mais ça me mettait dans un état d'angoisse fou.
Ouais, j'imagine.
Et. Je ne sais pas, bon, alignement des planètes, il s'avère que à ce moment-là, juste avant de commencer ce trimestre de PS, j'ai eu un ongle incarné. Et je suis allée chez la... Parce que c'était ongle incarné sévère quand même. Donc je suis allée genre chez la podologue pédicure là, qui m'a remis tout ça en place. Et du coup, elle me dit, bon, je te fais une dispense de 2 semaines, le temps que ça cicatrise, machin. Et je sais pas, j'ai fait ma meilleure drama queen, en disant non mais ça m'est déjà arrivé et puis je vais avoir des chocs machin 2 semaines c'est pas, enfin j'ai surjoué le truc. Elle m'a fait une dispense pour tout le trimestre et c'était un soulagement immense pour moi parce que j'ai échappé à ça. Mais du coup j'y repense, je me dis ouais, c'est fou quoi d'en arriver là, mais je me souviens de l'état de stress, de me dire mon corps va être à la vue de tous, parce qu'en plus quand tu faisais les représentations après de tes figures finales, c'est vraiment t'as toute la classe qui est assise et qui te regarde, et enfin l'idée qu'on regarde mon corps, ça me mettait et qu'on le porte, c'est en plus c'était un enfer. Mais du coup bah merci l'ongle incarné.
T'as
ça m'a sauvé.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Ah ouais.
Horrible. Ouais, ouais. Parce que là, du coup, en plus, ouais, tu te retrouves confronté à des situations comme ça. Enfin, typiquement, pour une personne qui vit pas, du coup, ce genre de choses et qui a pas le même rapport au corps, etc., bah, ça peut être une situation très lambda. C'est-à-dire, voilà, t'as un cours de gym et basta. Mm. Mais là, enfin, du coup, que tu me le dises, là, que tu le verbalises, je me rends compte et ça fait sens parce que, effectivement, tout ce que tu viens de nous dire avant. Bah, je comprends dans quelle position ça a pu te mettre, mais je trouve ça fou de me dire que bah, si ça se trouve, moi, au même âge, j'avais typiquement acro-gym et on levait pas du tout cette situation-là de la même manière, quoi, tu vois. Et que ça puisse t'angoisser après derrière autant, enfin, ouais, c'est.
Ouais.
Waouh! C'est fou. Ouais. Mais bon, après, ça fait partie de ce truc-là, du trouble, du rapport au corps, etc. Et d'ailleurs, en parlant du rapport, du coup, donc toi, ça a commencé, c'était lié premièrement, c'était le physique.
Ouais.
C'était le fait de se comparer et de se rendre compte que t'étais, du coup, tu correspondais pas, finalement, peut-être aux normes ou aux standards de beauté.
Exactement.
Et est-ce que, du coup, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et quelles images, en fait, quel était ton exemple? Bon, on sait que, voilà, les standards, c'est très lié à la minceur, etc., machin. Mais toi, comment t'intégrais ces images et comment ça t'a influencé? Parce que tu vois, moi, typiquement, je me souviens à l'adolescence, je me comparais, mais je crois pas avoir été plus que ça impacté finalement par les standards que les gens imposaient. Enfin, attends, je réfléchis, mais en fait, si, je crois. Moi, en fait, j'ai eu des troubles aussi du comportement quand j'étais plus jeune qui a affecté après mon physique. Mm-hmm. Et moi, à l'inverse de toi, j'étais trop mince.
Ouais.
J'étais très très mince, extrêmement mince et vraiment hyper maigre quoi. Genre du coup les gens ils étaient en mode putain, enfin tu vois, on te voit aussi comme une personne hyper fragile qui peut se casser à tout moment. Quand je mettais des vêtements, par exemple je remplissais pas mes jeans alors que pourtant c'était des jeans slim, tu vois. Genre on me faisait des réflexions en mode ah putain tu devrais peut-être pas porter de pantalon parce que ça te va pas, tu vois.
Ouais.
Et moi pour le coup c'était plus lié par rapport à mes camarades de classe et donc la source de ça c'était vraiment les gens au collège. Plus que la société, enfin je pense même pas avoir eu d'avoir été influencée, même d'avoir conscience en fait de ce qui était attendu du corps d'une femme au-delà de la sphère de l'école. Et donc du coup ma question c'est toi, donc quelles étaient les premières sources sur lesquelles en fait tu créais ce standard et cet exemple de beauté qu'il fallait absolument atteindre?
Je dirais, franchement, c'était vraiment le fait de me comparer aux mêmes filles de mon âge et de voir qu'elles étaient plus minces que moi. Et du coup, c'était ça la première source de cette envie de mincir. Et c'est une période où je consommais beaucoup de magazines féminins, en ligne ou même de toutes les images qu'on pouvait avoir. D'actrices, de chanteuses, et je voyais bien que la norme c'était d'être mince, voire maigre. Du coup, c'était ça. Et après, en quatrième, il y a un gars qui m'a fait une réflexion, qui m'a dit, je me souviens exactement du lieu, de l'endroit de cette situation, de son nom et son adresse.
Attention, elle arrive à te chercher.
Et il m'avait dit, oh bah toi, un petit régime, ça te ferait pas de mal. Et donc là.
Un mec du lycée ?
Du collège, en quatrième, qui m'avait dit ça. Alors qu'on était assis dans la classe en train d'attendre que le prof arrive. Et lui, il m'avait dit ça, pour faire rigoler ses potes. Et après, il était passé à autre chose. Alors que moi, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et à cette époque-là, c'était venu confirmer toutes les insécurités que j'avais déjà en me disant, c'est pas que dans ta tête, parce que lui aussi, il le pense. Donc oui, t'es trop grosse. Donc maintenant,
fais quelque chose
et perds du poids.
Ouais.
Donc à partir de là, j'étais persuadée que tout le monde pensait que j'étais grosse et que dès que j'étais dans un groupe, donc que ce soit dans la classe ou dans un groupe, et même après plus tard, dans une soirée, je regardais les gens autour de moi, les meufs notamment, en me disant est-ce que je suis la plus grosse de la soirée, est-ce que je suis la plus grosse de ce groupe. C'était une obsession.
T'étais omnibulée par cette apparence. Et donc ensuite, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais voilà, t'as changé un peu ton rapport au corps a évolué. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus ?
Il y a un aspect quand même, je pense, qui est important et qui a joué aussi. À l'époque, je voyais bien que tout le monde, collège, lycée, tout le monde commence à avoir des petits copains, des relations, plaire aux garçons, tu vois. Il y avait aussi ce côté-là. Et à l'époque, moi, j'étais dans des schémas vraiment très normés. J'étais en mode « Ah ouais, il faut plaire aux garçons ». Et moi, je ne plais pas aux garçons parce que je suis trop grosse, visiblement. Donc ça, pendant longtemps, ça a été aussi un problème. Et quand j'ai commencé, du coup, après le lycée, à fréquenter des garçons qui m'ont dit « C'est bon, tu es validée, tu me plais », c'est vraiment problématique de dire ça parce qu'en fait, ça m'a aidé aussi de me dire « Ah, je peux plaire, ça va, en fait
».
Et à accepter, du coup, plus le corps que j'avais. Ça, en vrai, je pense que ça a aidé. Mais après j'ai fait du chemin depuis. Maintenant la validation des hommes, j'en ai absolument plus rien à faire, mais je pense qu'à un moment ça m'a aidé.
Mais je pense que tous, pas forcément même lié au TCA, mais à n'importe quel autre critère, je pense que cette période là entre l'adolescence, transition vers l'âge jeune adulte, t'as énormément besoin de validation quelconque, quelle qu'elle soit, tu vois. Et ça aide énormément à te sentir déjà dans les normes, de dire que ok, tu es validé par un groupe social, tu vois, et donc tu peux être, tu peux exister, tu vois. Tu es légitime de pouvoir être ce que tu es, que ce soit mentalement, physiquement, donc ça me choque pas plus que ça et effectivement c'est compréhensible quoi.
Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, la validation des autres.
Et de s'en détacher, c'est tellement dur.
Ouais.
Du regard des autres, de la validation, de ne plus être dans la recherche constante de la validation. Même quand des fois tu te le dis que c'est bête d'être à la recherche de cette validation, bah, tu restes quand même, mine de rien, bloqué. Et je pense que tout au long de ta vie, finalement...
C'est hyper dur de s'en défaire complètement.
Prendre du recul là-dessus, c'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, tu penses que tu es réconcilié avec ton corps ?
Réconcilié, ouais, quand même. Même si c'est pas non plus tout le temps super et que... Il y a des moments où je me dis, pareil, que si je sens, par exemple, que j'ai pris du poids, tu vois, je sais pas, je me sens serrée dans mon jean, je vais tout de suite avoir la culpabilité de me dire, bah ouais, faut faire gaffe, machin, tu vois, ça peut vite revenir. Mais comme je disais aussi, maintenant, je suis reconnaissante de tout ce que mon corps me permet de faire et du coup, je suis un peu plus en paix avec lui et plus indulgente.
Ouais,
donc, ouais. Et j'ai appris aussi à aimer certaines parties de mon corps, même s'il y en a que je déteste encore. Il y en a où je me dis, ah bah ça, en fait, ça va, c'est cool, j'aime bien. Et du coup, petit à petit... C'est pas si un jour, je serai complètement en paix avec mon corps. Et j'ai l'impression que les meufs, de manière générale, il y en a... Enfin, la plupart sont bourrées de complexes et toute leur vie... complexés. J'ai lu il y a pas longtemps un chiffre qui disait aux États-Unis, les femmes sont au régime pendant 17 années de leur vie.
Waouh.
Et je me suis dit, mais waouh. Donc moi là, ça fait déjà 10 ans. Donc si je continue, tu vois, ouais, ça fait sens. Et c'est hyper triste parce que, et ça aussi, je me le dis souvent, est-ce que sur mon lit de mort, j'ai envie de me dire, t'as passé plus de la moitié de ta vie, de ton temps, de ton énergie, à penser à faire du sport, à manger moins, à manger plus comme ci, moins comme ça, à être complètement obsédé par ça, plutôt que de juste vivre et profiter de ce que ton corps te permet de faire. Et du coup, ouais, j'ai plus cette capacité à prendre du recul sur tout ça.
Ouais. Mais non, mais c'est fou. Mais je pense que... Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr, et toi aussi, là, du coup, c'est un parfait exemple du rapport aussi à la société, ce que nous impose la société, tu vois. Donc, ce soit les normes, les standards de beauté, etc. Tant qu'il n'y aura pas eu une grande évolution à ce niveau-là, et là, on voit que ça commence un peu à bouger, et c'est cool parce que vraiment, pouvoir dire aux gens qu'en fait, toutes les morphologies sont belles et qu'il n'y a pas qu'un seul exemple, une forme à avoir, je pense que si, tant qu'on n'aura pas effectivement fait une évolution à ce niveau-là, on sera toujours un peu prisonnier et victime de ça, tu vois. J'ai l'impression que même si t'as beau être très conscient de tout ça, bah, tous les codes de la société feront que tu seras quand même toujours coincé là-dedans, quoi. Même inconsciemment et sans le vouloir, tu vois. Et typiquement, déjà, tout ce truc-là, il y a la diet culture. Je pense que ça, c'est un truc aussi qui doit te parler. Ouais. Toi, typiquement, c'est quoi ton avis à ce niveau-là?
Bah déjà peut-être pour diet culture, pour je sais pas si tout le monde
oui tu peux courant, dire quelques...
c'est un terme du coup qui nous vient de l'américain.
Donc
donc la culture du régime et de la minceur, et donc tout le système qui nous fait croire que un corps en bonne santé est forcément un corps mince et que tout doit être fait pour toujours être dans ce contrôle et de rester mince, qui engendre évidemment de la grossophobie. Et ce qui fait aussi qu'il y a une hiérarchisation des corps. Donc tu as plus de valeur si tu es plus mince, et si tu es gros, tu as moins de valeur que quelqu'un de mince. Et donc c'est tout ce que, enfin des exemples qu'on peut donner, c'est par exemple justement cette idée de, il faut toujours manger équilibré et sain. Et par exemple t'as le droit à le fameux cheat meal. Ça typiquement c'est de la diet culture, de se dire on s'autorise un écart dans la semaine où tu peux manger un burger avec des frites, mais attention c'est tout. Après on se reste discipliné et dans le contrôle permanent. Et il faut manger à telle heure, pas de grignotage entre les repas, enfin tous ces trucs-là, et qui vont à l'encontre juste d'une alimentation intuitive de bah j'ai faim, je mange, ou j'ai envie de me faire plaisir en mangeant ça, bah je le fais. Et donc bah alors moi j'étais sautée à pieds joints dans ça, j'étais complètement là-dedans à lire en plus des articles sur quoi faire, comment cuisiner, quoi manger, les aliments à bannir des aliments, c'est ça la diet culture. Et c'est déjà une forme de troubles alimentaires ou de dès que tu t'imposes des règles en fait sur les aliments, déjà ça devient problématique parce qu'on n'est pas censé avoir des règles sur juste la façon de nourrir notre corps. C'est absurde.
Ouais, ça va dans tous les sens et c'est compliqué de se dire que comme tu dis, de se rendre compte qu'en fait rien que ça peut déjà être un trouble en fait, comme tu l'as très bien dit, dès lors qu'il y a contrôle sur l'alimentation. Mais un contrôle vraiment permanent, exacerbé, c'est déjà très problématique. Mais cette culture-là, du coup, typiquement, elle est tellement omniprésente qu'on ne s'en rend même pas compte, tu vois.
Mais ouais, on ne se rend pas compte que c'est devenu presque la norme de nous faire croire que justement, manger juste ce que tu as envie, en fait, c'est pas bien. Il faut être discipliné à tout prix. Et du coup, ça engendre aussi toute une industrie de la minceur et du régime qui nous vend des trucs. Et tout ça, en fait, c'est juste créer de nouvelles normes pour contrôler les corps absolument de tout le monde pour que tout le monde soit dans la norme de la minceur.
Moi, par rapport à mon rapport personnel au corps, il y a un truc qui me semble fou, mais aussi, c'était lié au mannequinat, tu vois. Mm-hmm. Donc là, typiquement, physique, t'es là que pour ça. Hein.
Ah bah
ouais. tu es là pour tes compétences intellectuelles, tu vois. C'est vraiment un corps, un physique. Et c'est ça qui fait vendre, en fait. C'est là, toi, tu es le produit, c'est ton physique, tu vois. Et là, je me dis, putain, non pas qu'il y ait hiérarchie, mais puisque là, tout est vraiment tourné sur le physique, donc c'est vraiment un level au-dessus où... t'es pas trop légitime d'aller à l'encontre de ça parce qu'on te veut clairement que pour ça. Et du coup, moi j'ai signé dans une agence, j'allais signer dans une agence et j'avais rendez-vous dans d'autres agences et tout. Et du coup, il y a ce truc où t'arrives et on prend tes mesures pour voir dans quelle case on te met déjà, et voir si tu corresponds aux standards, tu vois, qui sont encore plus compliqués à atteindre parce que c'est le mannequinat et qu'on exige des gens qui soient quand même extrêmement minces, tu vois. Et donc moi, pour vous dire, du coup, j'ai une morphologie mince, tu vois, je dirais que je suis filiforme. Donc j'ai pas eu du tout de souci de me dire, faut que je perde du poids, puisque je me suis toujours... je rentrais plus ou moins dans ce standard-là, donc ça me préoccupait pas plus que ça, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai eu, du coup, rendez-vous avec les agences qui commençaient à prendre mon poids. Et effectivement, j'ai des fesses. Et donc, typiquement, quand elles prenaient mes mensurations pour les hanches, et directement, je passais dans la catégorie curvy, tu vois. Mais t'imagines, meuf? Du coup, vous me connaissez peut-être pas, mais je suis extrêmement mince. Je suis pas maigre, mais je suis mince. Mais juste, j'ai des fesses. Et du coup, forcément, quand tu prends mes hanches, c'est un peu plus large parce que j'ai des fesses, quoi, tu vois. Et je me disais, mais c'est un truc de fou.
Mais oui, ça correspond aussi à du coup ce qu'on voit avec tout ce mouvement, justement, body positive, on accepte plus de corps, on met plus de corps en avant. Et en mode, on met des meufs curvy qui, en fait, sont pas curvy.
Mais, oui,
mais visiblement, puisque leur standard, c'est ça, si t'as un peu de fesses, tu passes tout de suite
exactement.
En plus size.
Exactement.
Super, les représentations. Et en fait, ok, on crée plus de visibilité, mais juste on crée des nouvelles normes.
Exactement.
Et il y a plein de gens, en fait, qui rentrent pas là-dedans et le problème reste le même, quoi.
Ouais. Et c'est j'ai ouf. Trouvé ça fou et je me suis dit, putain, heureusement que ça arrivait à une période de ma vie où j'ai déjà dû la maturité nécessaire et que j'ai pas eu non plus trop de... Enfin, j'ai pas eu particulièrement... J'ai eu des troubles liés à l'alimentation, mais quand j'étais très très jeune, liés à ma maigreur, c'est-à-dire que je mangeais pas du tout, mais j'étais vraiment hyper jeune et ça s'est arrêté très vite, Dieu merci. Mais du coup, cette phase-là avec l'agence, c'est arrivé quand même une phase de ma vie où j'étais... mature, j'avais pas eu trop de complications à ce niveau-là avec l'alimentation et du coup j'ai réussi quand même à avoir le recul nécessaire mais j'ai failli quand même commencer à me laisser embourber dans un truc parce que même moi tu vois je m'auto-remettais en question et je me disais attends si je suis catégorisée comme ça c'est que peut-être que en fait pas que je suis comme ça mais qu'il y a peut-être tu vois c'est comme si ça déclenchait un signal tu vois en mode ah commence à checker ton corps tu vois puisque si on te met dans cette étiquette là c'est que c'est pas pour rien. Donc j'ai commencé à faire attention, enfin pas à faire attention mais j'ai commencé à m'inscrire à la salle. Tu vois l'année dernière quand je suis allée m'inscrire à la salle c'est parce que inconsciemment je me disais peut-être que je peux encore perdre tu vois, peut-être qu'il y a encore un truc à perdre alors que je suis déjà très mince tu vois. Je commençais à faire plus attention aussi effectivement à comment est-ce que je rends dans le miroir puisque encore une fois je me disais si je vais être amenée à faire des photoshoots etc... et ça commençait à petit à petit me matrixer un peu en fait tu vois. Alors que de base il y a zéro sujet, quoi, tu vois. Et je me dis, waouh.
Ça peut vite ravager quelqu'un.
Ça peut très vite.
Surtout en plus, si t'es un peu plus sensible et que tu accordes de l'importance à ce que pensent les autres, mais tu peux très vite tomber dans des TCA sévères.
Ouais. Et j'imagine, tu vois, les meufs qui commencent le mannequinat, qui sont très jeunes, qui n'ont pas encore les épaules nécessaires et qui en plus... parce qu'il y a ce truc aussi un peu de fame où t'as envie d'être la plus belle, la plus machin, très compétitive, tu vois. Toutes les nanas, elles sont super belles. Enfin, c'est horrible. Genre vraiment, c'est un monde aussi, on va pas se mentir, qui est très malsain et qui peut vraiment très rapidement te détruire. Et genre, je sais plus, je crois que j'avais écouté l'interview, c'est une meuf qui disait, typiquement, le régime alimentaire des mannequins, c'est en mode soda et pomme, tu vois. Soda pour avoir l'apport de sucre et combler le fait que tu manges pas, et manger que des pommes pour ne pas prendre de poids, quoi, tu vois.
Ah ouais.
Et il y en a plein qui vont jusqu'à complètement se niquer la santé et niquer l'alimentation pour rester dans cette norme-là, tu vois. Et genre, ça m'a traversé l'esprit, j'étais en mode, ah putain, peut-être que je devrais manger moins, tu vois. Et je me suis dit, waouh, meuf, attention, là, ça peut te niquer complètement, tu vois. C'est déjà en train de rentrer et de planter une petite graine dans ton cerveau, tu vois. Donc, c'est très chaud et ça peut être très, très dangereux, en fait, tu vois.
Mais tout le monde, je pense, et encore une fois, je pense encore plus les femmes, ont touché de près ou de loin des TCA à une période de leur vie. Parce que, c'est tellement omniprésent tout le temps, ce rapport au corps, ce rapport à l'alimentation.
Et donc, là, on commence à voir, comme on disait, de plus en plus, en réponse à ça et un peu en contre-attaque, tous les mouvements qui sont liés du coup au body positivisme, etc. Et honnêtement, je sais pas, tu vas me dire après ce que t'en penses, moi je trouve que ça fait énormément de bien, tu vois, même si j'ai jamais été trop complexée, c'est pas un truc qui m'a suivi toute ma vie, quand j'étais très jeune, si effectivement, mais ça s'est très vite arrêté, mais malgré le fait que j'ai pas été vraiment touchée pendant une très longue période à un degré assez avancé, et ben malgré tout, voir arriver, émerger ce type de mouvement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien pour moi-même, pour me dire que si un jour, par exemple, admettons, t'as une grossesse et ton corps, il change, et ben, pouvoir aussi l'accepter, tu vois, pouvoir accepter que ton corps aussi puisse changer, tout simplement parce que tu évolues, tu grandis, etc. Et je me suis dit, ça fait du bien, tu vois. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce... tout a aussi ses limites, etc.
Oui. Je suis assez mitigée. Je suis d'accord avec toi dans le sens où ça permet de donner une visibilité à plein de corps différents qu'on n'avait pas l'habitude de voir, de révolutionner un peu ça et justement après de pouvoir dénoncer typiquement des marques qui justement montrent que des femmes minces et blanches. Maintenant, c'est plus possible ça. Enfin, c'est vraiment vous avez rien compris. Donc ça, c'est bien parce que voilà, on parle de tout ça. On montre des gens différents et oui, ça rassure de se dire ok, c'est normal d'avoir de la cellulite ou d'avoir des poils aux jambes, tu vois. Après, ce qui me dérange un peu plus, c'est qu'en fait, tout ça reste marketing et ça reste un moyen de vendre plus. Oui, les marques s'adaptent parce que justement, elles ont plus le choix et que si elles font pas, on va juste ne plus aller chez elles et du coup, elles vont perdre de l'argent. Et c'est du coup, tout ça, c'est complètement lié à l'industrie encore qui veut juste faire de la thune. Et en plus de ça, on crée des nouvelles normes. Et il y a des gens encore qui ne sont pas forcément représentés, même dans le body positive, où au final, justement, tu disais, on prenait l'exemple des meufs curvy. Mais du coup, on voit juste des femmes, ok, qui sont pas minces, mais est-ce qu'on voit vraiment des femmes, je sais pas, vraiment très grosses? Pas tant. On reste quand même dans des normes plus ou moins larges qu'avant, mais bon, tout le monde n'est pas là non plus. Et malgré tout, on donne toujours plus d'importance dans la société aux gens qui correspondent aux normes de minceur et de voilà, qui sont restent conformes à peu près quoi. Il y a encore plein de gens qui sont discriminés parce que ils sont pas minces ou parce qu'ils sont handicapés ou parce qu'ils sont pas blancs. Donc bon, je prends avec des pincettes quoi.
Ouais, avis mitigé.
Ouais.
Ouais, c'est comme au même titre que l'écologie et le greenwashing, tu vois, genre...
Ouais, c'est un peu...
T'as un peu ce truc de... Ouais, on s'empare des tendances, puisqu'effectivement, ce qui est tendance, c'est ce qui fait fendre, quoi, tu vois.
Ouais.
Et ça dénature un peu, et ça enlève un peu le côté qui part vraiment d'une intention authentique de voilà changer un peu les choses. Bah là, toutes les marques l'approprient souvent. J'avais entendu parler d'un truc, mais après, bon, je sais pas si c'est véridique. Et voilà, mais je trouve ça quand même fou. Quand tu vois, comme on dit, les limites de ce truc où t'as envie de faire bien, mais au final, ça reste quand même un peu border, tu vois. Je pense que tu connais l'influenceuse peut-être My Better Self.
Ouais.
Elle a sorti du coup une marque de lingerie, il me semble, qui justement, elle, ses valeurs, c'était prôner le body positivisme. Et en gros, t'as une meuf qui était censée du coup poser, être modèle du coup pour la marque, qui a témoigné en disant que les conditions du photoshoot a été complètement, un peu à côté de la plaque, et notamment le sujet du corps. Bah, elle disait qu'en fait, elle donnait volontairement des ensembles de lingerie de taille en dessous au modèle exprès pour pouvoir faire apparaître les formes, les bourrelets, etc. Tu vois. Et je me disais, ah ouais, là c'est... Ça part de base, quoi. Elle a créé sa marque, je pense que ça partait d'une bonne intention.
Ouais, ouais.
Mais là, on arrive dans un truc qui reste quand même très... très malsain, quoi. Parce que finalement, c'est l'image que tu renvoies, c'est l'image de ta marque. Et donc, en fait, tu vas mettre des gens quand même dans une position très délicate, quoi, tu vois. Donc, je me dis, tu vois, t'as, comme tu dis, finalement, tout ça, c'est aussi une limite.
Ouais.
Même si de base ça peut partir d'une bonne intention, au final tu te rends compte que bah, c'est vite rattrapé par l'appât du gain. Quoi,
pour surfer sur une tendance. Parce que le body positif, c'est aussi une tendance sur les réseaux sociaux, le hashtag que tout le monde utilise. Donc forcément, il faut rester dans les trends. Mais au final, tu ne sors pas plus des normes que ça non plus. Parce que ça me fait penser, tu parles de shooting, photo justement, de ces trucs-là. Et quand tu regardes, c'est en fait toujours un peu les mêmes poses. C'est-à-dire que certes, on va montrer un corps qui est qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais on va le prendre en photo toujours de la même façon. Ou alors, la meuf, faudra toujours quand même qu'elle soit bien coiffée ou qu'elle ait les ongles faits. Enfin, tu vois, on reste quand même dans des normes de beauté présentes, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas si révolutionnaire que ça.
C'est un petit pas,
oui,
en espérant que bon, ça puisse quand même évoluer. Mais tu penses que ça pourra réellement
Franchement, je pense pas, hein. Je pense que
c'est la merde.
Ah, c'est foutu là, hein.
Je pense que ouais.
Ben non, mais tant que la société est vraiment basée sur l'argent. Et qu'on est aussi, on n'a pas assez parlé de patriarcat peut-être, mais permettez-moi de dire le P-word. attend des femmes qu'elles respectent des normes, qu'elles soient dans des cases, et même si ces cases sont de plus en plus ouvertes ou multiples, ça reste quand même bien normé. Enfin, ça me fait penser aussi à la chanteuse Angèle, qui avait eu, je crois, dans un clip où on la voit, elle a des poils aux aisselles.
Ouais.
Et tout le monde était là, genre, waouh, enfin, les mecs étaient, oh non, mais dégueulasse. Mais au final, ça a lancé aussi une autre traîne. Donc, très bien, ok, on accepte les poils. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qu'on n'accepte toujours pas, tu vois. Est-ce que si elle avait fait, je sais pas, elle s'épilait pas les sourcils et qu'elle avait un monosourcil, est-ce que ce serait la même chose? Est-ce qu'on accepte les meufs qui ont des monosourcils? Enfin, tu vois, c'est ok, on s'ouvre, mais on a du mal à complètement bouleverser tous les. Détruire tous les murs, quoi.
Ouais, ça prend du temps.
Donc j'ai l'impression que ce sera toujours un peu comme ça. Mais bon, on essaye de grappiller au fur et à mesure.
Et quand tu mentionnais le patriarcat, typiquement, tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, alors après, c'est les hommes, c'est pas les hommes.
Oui, bien sûr.
Bien évidemment, attention.
On se fait caillasser.
Non, mais en fait, c'est juste du coup le fait d'être dans cette société où les normes sont quand même dictées par des hommes et par... Enfin, en vrai, pour ce sujet-là, je mets capitalisme et patriarcat ensemble, main dans la main. Main dans la main, ils se sont dit, les femmes, on contrôle leur corps. Quoi qu'il en soit, on ne les laissera pas libres d'en faire ce qu'elles veulent. Elles doivent respecter des règles, des normes. Et si elles sortent de ça, c'est pas bien. Parce que nous, on veut faire de l'argent et on veut qu'elles soient plutôt discrètes, quoi. Je ne l'explique toujours pas exactement quoi, mais visiblement, on ne veut pas que les femmes fassent ce qu'elles veulent de leur corps. C'est juste ça. Et du coup, il faut qu'elles restent désirables. Et donc, elle respecte des trucs. Et pendant longtemps, ça a été, il faut être très maigre. À l'époque, Kate Moss et tout.
Oui.
Après, Kim Kardashian est arrivée. Bon, il y a eu des trucs entre-temps. Il y avait aussi le truc être sportif. Donc, il faut être mince, mais musclé, pas juste maigre. Après, maintenant, il faut juste être mince avec un gros cul et des gros seins. Enfin, tu vois, c'est toujours
même
des nouveaux trucs.
Cette terre-là est déjà révolue.
Oui, oui, oui. Alors maintenant, je sais pas si
elle s'est enlevée.
Oui, c'est vrai, problèmes. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est
ouais, en fait, je pense que j'ai l'impression que ça n'évoluera pas. Enfin, si, ça va évoluer un petit peu, mais ça ne va pas changer radicalement parce qu'il y aura toujours des nouvelles trends et toujours des standards entre guillemets imposés.
Ouais.
Un jour ça va être comme tu dis je sais pas la fille sportive, un autre jour ça va être l'anorexique, un autre jour ça va être la meuf pulpeuse, enfin il y aura toujours, ce sera toujours drivé plus ou moins par des certains critères à atteindre, donc j'ai l'impression que c'est un peu ce truc aussi de cycle en fait, tu vois, ça va jamais vraiment changer du tout au tout, mais ce sera juste par cycle quoi, par vague. Mais bon, après encore une fois je garde espoir, hein, ne soyons pas fatalistes, mais c'est du moins si on regarde ces dernières années, c'est un peu l'impression que j'en ai, quoi. Même si quand même, si je compare par rapport à je sais pas un siècle avant, c'est sûr que voilà, on parlait pas des mêmes choses, on n'avait pas du tout les mêmes intérêts, etc. En comparaison, on peut quand même dire qu'il y a un gros progrès.
Je suis d'accord, gardons un peu d'espoir. Et juste pour revenir sur le truc de patriarcat et capitalisme main dans la main, il y a aussi, on peut se poser aussi la question, en fait, quand se dire qui bénéficie de tous nos complexes, de toutes nos insécurités, de tout ce temps qu'on passe à contrôler notre corps et notre alimentation, bah, au final, c'est l'industrie de la minceur et c'est plein de mecs justement qui se font de la thune là-dessus et qui profitent des complexes des femmes, donc ça peut aussi remettre un peu les choses en place. Et après, je dis pas que pour sortir des TCA il faut réfléchir à ça en disant oh, bah, est-ce que t'as réfléchi à ce que le capitalisme et le patriarcat font, parce que non, quand t'es dans le dur du sujet déjà t'as même pas forcément conscience que c'est le cas, et donc voilà, c'est maintenant avec du recul que je dis ça, mais si on revient à ce sujet-là, faut pas hésiter non plus à avoir des professionnels, et parce que ça reste un problème de santé mentale aussi, avant tout.
Oui, totalement. Justement, j'allais en venir te demander, toi, de par ton expérience, est-ce que quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à une personne qui nous écoute et qui est en train de traverser peut-être ce genre de... qui est victime aussi de ce genre de trouble, prenant en considération toi ce qui t'a aidé. Quel conseil tu pourrais donner?
Bah, le premier conseil, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, c'est justement d'aller voir un psy.
Mais justement, parce que tu ne l'as pas fait, c'est aussi pour ça que tu peux dire que ça
je
peut
pense
être.
Ça aurait pu m'aider, parce que souvent les TCA, il y a plein d'autres trucs derrière. Hein. C'est de l'anxiété, dépression, addiction. C'est souvent, ça va de pair avec plein d'autres choses. C'est pas juste une mauvaise image de ton corps. Donc forcément, ça ne peut être que bénéfique. Donc ce serait le premier conseil. Et le deuxième conseil, d'en parler, de trouver des alliés de confiance à qui justement on peut exprimer toutes ces choses-là. Même si c'est hyper dur d'en parler, surtout que c'est un sujet où la culpabilité et la honte, c'est omniprésent. Surtout quand c'est des trucs de boulimie, d'hyperphagie, où il y a ce côté un peu, comme je le disais au début, c'est pas... L'anorexie a souvent été glamourisée, il y a un côté j'ai le contrôle, donc c'est un peu sexy, alors que la boulimie, l'hyperphagie, c'est... Bah, il y a un côté dégueulasse, quoi, où tu perds contrôle, t'es qu'une merde, tu sais pas... Tu sais pas gérer, et en plus tu manges et t'es gros, enfin tu vois, il y a ce côté vraiment hyper honteux, donc trouver des personnes de confiance à qui en parler, ça peut aider. Donc essayer de ne pas rester seul, et après voilà, un peu plus tard sur ce chemin de guérison, on prend conscience aussi de tout le système dans lequel on est, et on prend conscience que notre corps il est avant tout super, il nous permet de faire plein de trucs, donc
ouais, comme tu dis, on prend conscience de tout le système, et je pense que c'est important aussi de prendre conscience pour pas toujours se porter responsable, lié encore à ce sentiment de culpabilité, de honte. Je pense que tu dois vite te dire ah putain c'est moi, et te...
Bah ouais.
Alors qu'en fait souvent Ça peut venir de problèmes extérieurs, que ce soit la société ou comme tu disais, si c'est lié, je ne sais pas, à la dépression, à l'angoisse, qui est en fait lié à un autre souci que tu aurais pu avoir dans ta vie et qui fait qu'en fait, bah voilà, t'es pas forcément responsable de ça, quoi. Souvent, c'est même plus t'es plus victime, en fait, tu vois.
Bah souvent aussi, du coup, le TCA vient comme une solution à ces problèmes-là. Tu te dis, bah du coup, pour gérer toutes ces autres soucis que tu peux avoir, l'alimentation va venir comme une guérison, mais du coup, qui n'est pas pérenne et qui n'est pas viable, quoi. Mais très vite, tu peux tomber là-dedans parce que ça permet de dévier des autres problèmes que tu as. Mais ouais, c'est pas la bonne solution.
Ouais, ouais. Bah écoute, je pense qu'on est sur la fin de...
On a fait le tour.
De la thématique, enfin du moins de l'épisode, parce que la thématique est en vrai... On pourrait, là, pour le coup, on s'est concentré sur des points précis parce qu'ils sont aussi liés avec toi, ton parcours, ton mode de pensée, etc. Et qui est d'ailleurs hyper enrichissant. Mais effectivement, les troubles du comportement alimentaire, c'est tellement large, tellement vaste qu'il faudrait, je pense, 3 ans pour...
Ouais,
mais oui, il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir faire le tour. Mais en tout cas, merci beaucoup, Suzanne, encore une fois, d'avoir pris le temps de témoigner, de nous parler de toi, de tes expériences, etc. Enfin, je ne cesse de le répéter, mais je suis persuadée que le partage des expériences des uns peut potentiellement aider les autres, et j'espère vraiment que, bah voilà, si vous nous écoutez, ça a pu résonner, ou pas hein, d'ailleurs, mais voilà, pour les gens qui peut-être se sentent liés à cette problématique de près ou de loin, ça a pu peut-être se faire résonner quelque chose chez vous. Mais voilà, avant de terminer, du coup, la tradition du podcast que tu connais et que tu n'as pas eu l'occasion la dernière fois, puisque dans l'épisode Voix Multiple, du coup, je n'ai pas demandé la référence et c'était un épisode dans lequel Suzanne faisait partie, mais du coup. Est-ce que tu aurais une référence à nous partager, qu'elle soit audiovisuelle, je sais pas, littérature, musique,
Ouais, j'ai une petite reco.
Ok, sympa.
Je recommande, c'est sur un compte Insta, le compte Insta de Arte, mais Arte à suivre. Okay. C'est vraiment tout attaché, Arte à suivre, où ils publient des formats courts de différentes petites séries, en fait. Et actuellement, ils diffusent une mini-série en dessin animé qui s'appelle Samuel. L'illustratrice, je crois qu'elle s'appelle Émilie Tronche. Et on suit le journal de Samuel qui a 10 ans et qui passe de l'enfance à l'adolescence, justement. Il quitte la primaire, il arrive au collège. Et du coup, c'est des petits épisodes de 2-3 minutes où voilà, c'est des dessins très simples et tu vois ces différentes expériences de lui dans cette phase-là de sa vie. Et c'est hyper, hyper émouvant et hyper drôle. À chaque épisode, je ris autant que je pleure. Et parce que bah, forcément, ça parle, je pense que ça résonne chez tout le monde. C'est des sujets parfois assez deep, parfois plus légers, mais c'est voilà, une petite douceur qui est trop, trop cool. Donc, je vous invite à regarder ça.
Ok, trop, trop bien. Merci beaucoup, Suzanne, pour le partage.
Merci à toi.
Vous retrouverez du coup, je vais partager cette référence du coup, sur mon compte Insta également. Et puis, bah, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. Par rapport du coup au sujet des TCA, en espérant que, bah voilà, comme tu dis, t'es sur la bonne voie et que tu continues de la sorte. Et puis à très bientôt, puisque je pense qu'on va te retrouver également sur certainement un prochain épisode.
Ok, bah à bientôt alors.
Mais merci d'être venue, Suzanne.
Merci à toi.
Et merci à vous de nous avoir écoutés, d'être encore là sur Rebel Podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.
Au revoir.